France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des femmes dans le chaos du monde ce samedi dans Plan Large avec Radou Joudé et Sépide Farsi et aussi Luc Razanadjaon et encore Sophie-Catherine Gallet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. C'est décidément la grande question que se posent les cinéastes en ce moment après le oui de Nadav Lapid et le Sirat d'Oliver Lachey dont nous parlions ici avec eux il y a deux semaines. Deux films sortis ce mercredi interrogent à nouveau comment faire cinéma de nos impuissances politiques face aux barbaries contemporaines. Ils sont signés de deux habitués de Plan Large. Il faut dire que leur talent est grand et qu'on est toujours ravis de les recevoir, d'autant qu'ils proposent dans chacun de leurs films une riche réflexion sur les images contemporaine et en particulier cette semaine celle produite par des smartphones pour donner à voir le monde qui nous entoure au plus proche comme au plus lointain. Le premier est le plus prolifique, inventif et stimulant des cinéastes roumains, en témoigne la première rétrospective intégrale de son œuvre programmée depuis mardi par le Centre Pompidou au MK2 Bibliothèque à Paris avec nombre de précieux inédits. Nous avions brièvement rencontré Radou Joudé à Berlin en février dernier où son très beau Continental 25 concourait pour l'Ours d'Or, alors que le film sort enfin en salle et que dans trois semaines sort également celui qu'il a tourné concomitamment, un très déjanté et proliférant Dracula, le premier film roumain, mais oui, consacré au mythique vampire. Nous profitons de sa présence en France pour nous replonger avec lui dans cette ville de Cluj qui tient lieu de décor à ce diptyque. L'Iranienne Sépide Farsi, auto-exilée en France depuis plus de 40 ans, nous l'avons reçue elle aussi plusieurs fois dans Plan Large et tout récemment encore pendant le dernier festival de Cannes pour parler trop brièvement aussi de son nouveau film qui avait fait événement, Put Your Soul on Your Hand and Walk. Le film est sorti en salle cette semaine alors que de nombreux pays dont la France reconnaissait officiellement la Palestine comme État. Il était donc essentiel qu'on y revienne plus longuement, nous l'entendrons tout à l'heure. Le jeune cinéaste malagasy Luc Razanadjaon nous dira encore le rôle de la musique panafricaine dans l'éveil d'une conscience politique à Madagascar, comme il le raconte dans Disco Africa, et Sophie-Catherine Gallet reviendra en fin d'émission sur les années 1970 de Wim Wenders. Mais pour l'heure, tout commence dans une forêt transylvanienne avec de drôles de bestioles. Bonjour Radou Joudé.
Bonjour et merci pour m'inviter ici. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour moi être ici et voir cette sigle de France Culture, c'est un grand bonheur parce que j'écoute beaucoup et j'écoute beaucoup dans les archives quand m'intéresse quelque chose et je cherche sur Internet. Très souvent, j'arrive sur les archives de France Culture et j'écoute beaucoup de choses. Donc c'est une certaine familiarité étrange parce que c'est une familiarité de loin et maintenant je suis ici. Donc.
Ben vous êtes ici chez vous, Radou Joudé. Oui. Alors ce qu'on a entendu, c'est un sans-abri qui marche dans la forêt, il ramasse ce qu'il trouve, il croise de drôles de créatures qui sont des créatures mécaniques, ce sont des dinosaures, on est dans un dino-parc. Alors c'est le début du film, on pourrait croire que ça va être le protagoniste de ce Continental 25, puisqu'il ouvre le film. Sans trop en dire, on peut dire quand même qu'il va disparaître assez rapidement physiquement du film, même si son fantôme hante tout le reste du récit. On est un peu comme chez Hitchcock dans Psychose, un basculement de point de vue va s'opérer. Il y a un goût des fausses pistes chez vous, Radou Joudé.
Oui, le film peut-être qu'offre certaines fausses pistes et c'est vrai que c'est une structure inspirée, bon, proportion gardée de Psychose, de Psycho, de Hitchcock. C'est inspiré aussi d'une certaine manière de certains thèmes et certaines éthiques de travail d'un de mes cinéastes le plus préféré et de plus en plus préféré, si je peux dire comme ça, qui est Roberto Rossellini. Donc oui, c'est des fausses pistes. Et à la fin, je ne sais pas décrire mon propre film, mais je pense qu'il y avait des gens hier, après la projection à Cinéma Georges Méliès à Montreuil, et j'avais un peu de discussion, il y avait quelqu'un qui disait « mais c'est trop hermétique, c'est pas enfant trop clair, etc. etc. » Mais je pense que ça, c'est peut-être une qualité dans ce cas-là.
Oh, je ne suis pas sûr que ce soit le plus hermétique de vos films. Il a au contraire une certaine limpidité, en tout cas dans la mise en scène. Roberto Rossellini, vous le citez parce que le film dialogue très directement avec Europe 51, notamment sur la question de la culpabilité, de la sainteté laïque. Peut-être aussi, est-ce que la manière de travailler de Rossellini, précisément, vous a inspiré pour ce film, tourné en 10 jours avec un téléphone portable dont on ne citera pas la marque, mais qu'on peut reconnaître assez facilement? Il y a une économie du cinéma chez Roberto Rossellini.
Oui, oui, absolument, et c'est quelque chose qui m'inspire. C'est la même idée quand Godard disait qu'après il a vu Voyage en Italie, il a dit, voilà, on peut faire cinéma avec une voiture et un homme et une femme. Et je me souviens vraiment directement quand j'ai fait le film, j'ai vu avant ça, quelques mois, j'ai revu le film sur Saint-Francis, 11 Fioretti.
Saint-François, les 11 Fioretti de François d'Assise.
Oui, que je trouve très, très beau. Et là-bas, c'est une interview avec sa fille, la grande actrice Isabella Rossellini, et elle parle de le moment où son père faisait ce film, et apparemment, il a choisi une pellicule pas très chère, une caméra pas très, très chère, et il a voulu vraiment faire le film au plus pauvre que possible, pour certaines raisons, soit pas seulement esthétique, mais aussi éthique, aussi disait Isabella Rossellini, de donner accès à des autres cinéastes et pas prendre toutes les ressources, je sais pas, des fonds publics ou des choses comme ça pour ces films. Et je trouve ça très, très beau et très, très important et très, très stimulant. Et bon, donc, pas pour les mêmes raisons peut-être, mais cette éthique de travail, cette éthique de faire un film comme ça, et aussi sur un sujet assez douloureux, que c'est cette inéquité sociale, gentrification, SDF, etc. J'ai un peu de gêne parfois quand on voit des films sur la pauvreté faits avec des millions et millions d'euros. Je trouve un peu... Bien sûr, quelqu'un peut m'accuser qu'aucune somme, c'est une question assez relative. Mais d'une certaine manière, je crois que j'ai un peu de gêne quand je regarde des films comme ça avec des énormes moyens, et ici aussi pour ça, mais pas seulement pour ça, pour la possibilité aussi de faire le film. Vraiment, je voulais le faire avec les moins moyens possibles, mais oui.
Et ce qui est très rossellinien aussi, c'est que vous filmez dans la ville, vous filmez dans la vie, vous faites des très longs plans de discussion, ça on va en parler également, mais où la vie bruise derrière. Enfin, c'est une manière aussi de capter de façon documentaire ce qu'il se passe derrière un moment de fiction, Radou Joudé.
Oui, en effet, c'est ça, c'était la leçon de la nouvelle vague que j'ai appris, bon, j'espère que bien, cette désir de filmer dans la vie, de filmer dans la rue, de capter un peu l'énergie de place et capter le moment. Pas le moment de tournage qui devient un peu comme un documentaire. Et ici, en effet, c'était aussi un choix parce que le tournage avec le smartphone a fait qu'on a réussi de ne pas prendre ce qui est normalement obligatoire d'avoir des signatures de la maire ou de payer des taxes pour tourner dans la ville. On a tourné sauvagement. Et aussi, c'est vrai que le deuxième plan documentaire de la ville, c'est plus documentaire que dans des autres films parce que une caméra de smartphone très très petite comme ça donne l'impression qu'il n'y a pas un film sérieux qui se fait là-bas, c'est peut-être des touristes ou des amateurs qui fait le film, donc ça c'était comme un donné en plus de cette façon de tourner. Et comme on n'a pas eu de lumière ou des grippes ou des choses comme ça, toute la technique qui est autour d'un tournage, c'était vraiment la captation de ces moments, de cette ville particulière et de cette région particulière, c'est venu en soi, si je peux dire comme ça.
Vous parlez de Nouvelle Vague, vous avez pensé à Romère aussi en faisant ce film, parce que moi j'y pense beaucoup en le voyant et en le revoyant. Ce sont des longs dialogues philosophiques, presque théologiques par moment. Et puis il y a aussi ce goût de Romère pour la ville, pour filmer la ville. On pense évidemment à L'ami de mon ami ou Entretien sur le béton. Il était là aussi, Romère, avec vous?
Oui, je pense qu'il est toujours dans mon ADN déjà, donc effectivement j'ai pas pensé à ça, mais parce que j'ai pas besoin. Il y a certains cinéastes que je connais par cœur, Romère est un de ces cinéastes, donc je crois que oui. Et aussi faire des dialogues ou les textes ou les mots, la matière du film, c'est quelque chose de très, très roméen, que d'ailleurs Romère a même théorisé dans son grand article pour Un cinéma parlant que je lis et relis parfois, et je trouve que ici, bon, c'est une question que je trouve assez importante, ou bon, pour moi-même ou pour le film, c'est vraiment de passer par la parole, de faire cette crise de conscience autour d'un système économique et politique post-totalitaire de Roumanie, de faire l'histoire autour des papiers et des paroles, parce que je trouve que c'est peut-être aussi en réponse à des films comme, bien sûr, qui sont peut-être des grands chefs-d'œuvre comme Triangle de Sadness, qui est
Ruben Östlund.
Qui sont des films qui suggèrent que l'essence de l'humanité se révèle dans l'animalité qui prend place quand, je sais pas, les gens sont isolés dans une île perdue où ils commencent à se manger entre eux, des choses comme ça, à s'entretuer. Et moi, je trouve que, bon, ça, c'est, bien sûr, c'est tout à fait possible, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus possible d'être tué par un papier ou d'être détruit par les mots de quelqu'un et pas seulement. Et c'est beaucoup moins possible que je finirai mangé par un autre humain sur une île déserte. Donc c'est pour ça que je pensais que pour moi, l'essence de l'humanité, ça reste dans les paroles, dans la civilisation. Et c'est exactement cette civilisation qui nous crée et qui nous fait exister. Et c'est aussi la même civilisation qui peut nous pousser en dehors et qui nous crée des soucis, plus que cette idée que l'animalité, bon, c'est un film sur la civilisation, si. Et c'est pour ça, bien sûr, la civilisation est faite avec le langage et notre pensée, comme certains philosophes disent, c'est une pensée qui existe, la pensée humaine, c'est seulement à travers les mots, à travers le langage. Donc, je pensais à toutes ces choses. Bien sûr, je pense que dans une façon plus légère que j'ai essayé ici d'écrire autrement.
Alors, la région particulière dont vous parlez, c'est une ville qui s'appelle Cluj, c'est la capitale non officielle de la Transylvanie. Et pourquoi vous étiez à Cluj pour tourner ce film ? Eh bien, à cause de ça.
Noi este pe lume plăcere mai mare decât vânătoarea cu jocuri zglobii. În sune de cornuri să treci prin zăvoaie.
Clic mai pus, Dracula.
Să alergi căprioare prin băi și câmpii. Ni viața voioasă, plăcerea e divină. Ce clipe de farmec pe veci ne supun. În codru cel verde cu bolta senină. Cântarea răsună și vinul-i mai bun.
Sfârșitul va fi lung, dar va fi frumos.
C'est la bande-annonce assez dingue, il faut le dire. Mais bien l'image du film de votre Dracula, Radu Joudet, un film qui sortira le 14 octobre, mais que les Parisiens pourront voir dès le 11 octobre dans la rétrospective du Centre Pompidou ou MK2 Bibliothèque. C'est un film qui a commencé comme une blague, avez-vous dit quelque part, Radu Joudet, c'est vrai ?
Oui, d'une certaine manière, c'est vrai. Ça veut dire que j'étais dans un marché de projets comme ça, et avec un autre projet il y a des années. Et personne. Bon, ces marchés de projets, c'est que tu rencontres là-bas beaucoup de producteurs, agents de vente, distributeurs, etc. Et comme ils n'étaient pas du tout intéressés de mon projet, j'ai dit comme ça à la provocation, mais j'ai un scénario Dracula en Transylvanie fait par moi-même, et qui vient de Transylvanie originellement. Et les gens ont dit, ah, mais voilà, ça m'intéresse. Donc, à un certain moment, je me suis dit, mais pourquoi pas faire quelque chose autour de ça, donc être un peu pragmatique. Et après, j'avais découvert que, en effet, ça ne m'intéressait pas, ces histoires de vampires, de Dracula, etc. Mais à la fin, après certaines années de travail, j'ai trouvé une direction, des perspectives et des lignes de fuite que j'aime beaucoup. Donc, j'ai réussi à faire le film avec beaucoup de joie. Et j'espère que cette joie, parce que c'est un film très ludique et très joyeux, je pense, c'est une joie cinématographique qui va être ressentie par les gens qui vont le voir.
Oui, parce qu'il faut le dire, c'est un film qui est foisonnant, baroque, proliférant, là où le film dont on vient de parler tend plutôt vers l'épure, vers la caméra posée. Mais ce qui semble vous intéresser dans ce film, c'est justement la tension entre ce Vlad Tepes, le voïvode qui a inspiré Bram Stoker, le personnage de Dracula, figure récupérée par les nationalistes et par Ceausescu avant.
Et maintenant, juste après, on a fait le film, il est devenu l'icône de le parti d'extrême droite roumaine.
Donc il y a ça d'un côté, et il y a de l'autre côté l'exploitation touristique du mythe de Dracula tel qu'inventé par l'Occident. Et oui, c'est précisément dans cette tension entre les deux que surgissent tous les surgeons incroyables de ce film.
Oui, parce que c'était aussi une question pragmatique au début, parce que je me suis dit, voilà, il y a mille de films américains, européens, français. À un certain moment, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, j'ai lu que Luc Besson va faire Dracula, tu n'as pas peur? J'ai dit, bon, pas du tout, parce que ce que je peux faire, Luc Besson ne peut pas faire, parce qu'il ne connaît pas toutes ces histoires locales sur le mythe. Donc, je me suis dit, je veux travailler en partant de cette histoire locale, de la perspective locale, de la perspective de la Transylvanie d'aujourd'hui, et l'ouvrir après ça sur la résurgence de ces mythes, ou la question du tourisme, ou la question d'une certaine politique qui est autour de cette cruauté de ce proto-Hitler qui était en effet Vlad l'Empaleur. Donc oui, c'est parti comme ça. Et après, je pensais que j'ai eu une bonne intuition, parce que je le vois maintenant partout dans des manières très troublantes. Mais oui, et c'est vrai que cette mythe a été a commencé dans les années 30 avec les fascistes, le régime de Ceausescu qui s'est inspiré beaucoup de le fascisme roumain, là poussait vers des autres avec beaucoup de pouvoir, et après la révolution de nouveau a devenu un mythe, un peu un mythe national. Donc je voulais travailler autour et contre ce type de mythologie de la cruauté, de la fasciste. C'est une figure de fasciste d'une certaine manière.
Mais c'est aussi un grand film sur l'idiotie des images générées par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a du Warhol là-dedans aussi? Parce que on peut voir en ce moment votre film Installation Sleep Number 2 qui est sur la tombe d'Andy Warhol, filmé par des images de surveillance, et on a l'impression que l'esprit de Warhol flotte un peu sur ce film.
Oui, absolument. Et quand vous avez dit idiotie, j'ai ressenti une très grande joie, parce que je pense que c'est un film idiot, d'une certaine manière. Dracula est un film idiot, mais dumb, peut-être le mot en anglais dumb, c'est plus bien, c'est mieux. Mais je pense que c'est un geste, le film, maintenant je sais pas, l'origine, ou c'est en liaison que je suis intéressé à faire entre la narration, le cinéma et ce qu'on appelle les avant-gardes historiques.
Fluxus est cité dans le film.
Fluxus est cité, Warhol c'est là aussi, les lettristes d'une certaine manière, et aussi je pense que on oublie que Roumanie dans les années 20 et 30 avait vraiment un grand mouvement de l'avant-garde qui a été écrasé par les régimes fascistes et après oublié à cause de le régime communiste, parce qu'il n'était pas des réalistes socialistes, et qui à cause de ça n'a pas donné beaucoup de fruits, mais en effet ça existe, c'était beaucoup grand, beaucoup. Eugène Ionesco écrivait déjà dans les années 30, Tristan Tzara faisait ses premières choses là-bas, Gerasim Luka aussi. Donc c'est beaucoup de choses, et l'avant-garde est tout le temps lié à des choses comme ça, à forcer le bon goût vers l'idiotie, vers la vulgarité, etc.
La plus sensationnelle, la plus jolie, cela et la plus et tout ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais dès qu'on la rencontre, on se dit oulala, oulala, là, tiens, la voilà. Salut Irma, tu viens au cinéma? Non.
Mais si, aller au cinéma, quoi, quand chante Bobby Lapointe dans ce « Et Toto » qu'on pouvait entendre dans le très réjouissant « Bad Luck Banging » en Looney Porn de Radu Joudé, Ours d'Or, s'il vous plaît, à la Berlinale de 2021. Allez voir Continental 25 qui est sorti ce mercredi, et allez voir Dracula qui sortira le 15 octobre, au lendemain de la clôture de la rétrospective intégrale du Centre Pompidou au MK2 Bibliothèque. Beau titre de cette rétrospective, Radu Joudé, cinéaste intranquille. On ne saurait mieux dire. Vous y donnerez une masterclass demain à 16h30. Votre cinéma Radu Joudé, ça se voit aussi en galerie, à la Fine Galerie, rue du Faubourg Saint-Martin à Paris, avec Sleep Number 2, c'est jusqu'au 4 octobre. Et puis Exit of the Trains, très précieux travail d'archives que vous avez fait sur la participation roumaine à la Shoah, en l'occurrence le pogrom de Iași. C'était le 29 juin 1941. Et puis pour en savoir encore plus sur vous, Radu Joudé, on se procurera sans attendre le très beau et passionnant livre collectif qui vous est consacré. C'est sous la direction de Cyril Neyra. Ça s'appelle Radu Joudé, la fin du cinéma peut attendre. Et c'est une coédition FIT de Marseille, Centre Pompidou et Édition de l'œil. Vous écoutez France Culture, et dans Plan Large, c'est encore une cinéaste qui, dans ses films, réfléchit et reflète les barbaries contemporaines. Elle s'appelle Sépide Farsi. Elle a quitté l'Iran depuis plus de 40 ans pour échapper à la férule du régime des Mollahs. Elle n'a cessé depuis son exil français d'y retourner pour filmer Téhéran sans autorisation, ou représentée en animation la guerre Iran-Irak, c'était La Sirène. Elle était venue dans cette émission en parler il y a 2 ans et quelques. C'est à une autre guerre qu'avec Put Your Soul on Your Hand and Walk qu'elle s'est confrontée, celle qui est en train d'anéantir la bande de Gaza et ses habitants. Son documentaire a bouleversé le Festival de Cannes, où en mai dernier il avait fait l'ouverture de la section parallèle L'Acide. Il faut dire que Fatem Hassona, la jeune photographe palestinienne qu'elle a filmée d'avril à novembre 2024 par smartphone interposé, encore, a été victime avec 6 membres de sa famille d'un assassinat ciblé via un missile israélien, comme des centaines de journalistes à Gaza, le lendemain même de l'annonce de la sélection du film à Cannes. Sépide Farsi, nous l'avions rencontré, là encore trop brièvement, pendant le Festival de Cannes, dans un plan large consacré aux images du Moyen-Orient. Vu l'aggravation, si c'était possible encore, de la situation à Gaza, nous ne pouvions que la rencontrer à nouveau et plus longuement.
The attacks, the Israeli bombing, is it all the time or are there moments where it's calm?
Yesterday in Beit Lahia, they bombed every time, and they bombing a huge explosion. The explosion in front of my eyes. I see the area and the ground. Shaking, yes, shaking in front of my
yes.
The air was a very huge explosion.
How does it feel being a Palestinian in Gaza today?
Is
it
I feel proud.
Proud?
I feel very proud because I feel I'm very proud that we are strong and brave and a very important person in the world.
Bonjour, c'est Pide Farsi.
Bonjour Antoine Guillaume.
Depuis qu'on s'est vu, c'était juste avant la projection de votre film au Festival de Cannes, il s'est passé beaucoup de choses là-bas, à Gaza, et puis en France et un peu partout dans le monde pour votre film aussi. Il a été vu à Cannes, il a été vu beaucoup déjà. Est-ce que les retours que vous avez pu avoir vous ont fait voir votre film différemment? Est-ce que vous avez découvert des choses dans votre film grâce à ces projections?
Au début, c'était du partage. Et effectivement, au fur et à mesure de mes déplacements, parce que je l'ai quand même maintenant montré aussi dans plusieurs pays et plusieurs continents depuis Cannes, l'accueil, il y a une partie de l'accueil, une facture commune dans l'émotion que je reçois des gens, dans l'énergie des gens. Mais oui, je le vois aussi différemment parce que je déchiffre l'expression de Fatem, ce qu'elle partageait avec moi différemment. Forcément, j'ai du recul par moments. Ça devient schizophrénique parce que c'est comme si je la redécouvrais, en fait, en regardant le film. Je vois toujours, pas forcément toutes les projections en entier, parce que c'est impossible, mais les minutes que je vois à chaque fois la font revenir. Et puis après, il y a toujours ce choc du moment où je sais que ça finit et elle disparaît. Et oui, je lis sa fierté différemment, je lis sa résistance différemment. Ma culpabilité n'a pas forcément de... ou cet état de entre-culpabilité, je ne sais pas, mauvaise conscience, je ne sais pas quel mot mettre dessus, change de couleur, change de teinte aussi. Mais, et puis il y a des choses que je perçois aujourd'hui comme prémonitoires dans ce qu'elle m'a raconté. Donc oui, ça change.
Le film, de fait, après l'assassinat de Fatem Hassona, aurait pu être un tombeau au sens littéraire, artistique, du film. Il ne l'est pas. C'est un film qu'on ressent moins de déploration que de combat. Un film qui parle moins de la mort que de la vie. Vous avez évidemment monté le film quasiment entièrement avant la mort, même complètement avant la mort de Fatem Hassona. Vous vouliez donner cette tonalité à ce film?
D'abord, quand on était face à face, on ne parlait jamais de la mort, en fait. Elle m'a envoyé quelquefois des messages, notamment après la mort de son amie Mahassen al-Khatib, qui avait été tuée dans un bombardement, celle qui est graphiste et qu'elle perd vers la fin du film, l'automne dernier. Là, elle m'avait envoyé un message où il y avait une teinte. Pour la première fois, elle disait « Oui, je crains aussi que ça m'arrive. » Mais c'est une des rares fois où elle a parlé directement comme ça de la mort. Elle a écrit des textes testamentaires, certes, mais qu'elle n'a pas confié à moi. Elle a envoyé à des médias, et que j'ai découvert par la suite, notamment cette phrase où elle disait qu'elle voulait une mort retentissante et qu'elle ne voulait pas être un chiffre à la fin d'un article dans un journal, qui est très fort aussi comme un commentaire sur sa propre disparition à venir. Mais moi, j'ai donc, oui, voulu garder vraiment ce ton, l'axe ou le cap sur la vie. Pas un cap sur la mort, et même quand elle n'était plus là, c'était ma volonté. La seule chose que j'ai changée dans le film, c'est ce bout de conversation, de notre dernière conversation, que j'ai décidé d'intégrer peu de jours avant la projection cannoise, parce que j'estimais que c'était important que les gens puissent aussi voir sa joie et sa réaction face à cette nouvelle. Et le reste, effectivement, n'a pas bougé. Donc c'était déjà une intention assumée.
Oui, parce que j'imagine que ce qu'on voit, ce n'est qu'une petite partie de vos conversations, de tout ce que vous vous êtes dit. Donc vous avez fait des choix, vous avez fait des choix de montage. Qu'est-ce qui a structuré le montage? Qu'est-ce qui vous a donné le film? Moi, j'ai l'impression que ce que vous filmez beaucoup, enfin ce que vous gardez beaucoup, en tout cas, c'est la rencontre précisément. C'est-à-dire ce qui se joue entre vous deux et pas seulement ce qui se joue là-bas?
C'est les deux, en fait. Je pense que, oui, chacune des conversations était beaucoup plus longue que ce que j'en ai gardé dans le film. Donc, il faut imaginer chaque conversation faisant entre 50 minutes et 1h30, selon les jours. Et il y en a eu, je ne sais pas, plusieurs dizaines. Donc là, je n'ai pas compté, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'heures de rush qui ne sont pas utilisées dans le film. Mais globalement... Il y a des choses, des constances. Pour moi, c'était toujours important de garder la joie de nos retrouvailles, sa joie à elle, ou son mood du moment. Et moi, je partais de ça. En fait, je l'interrogeais sur comment elle allait, et puis ça partait de là. Ça partait toujours du... Il y avait des rituels entre nous, de ce qu'elle avait mangé, si elle avait bien dormi, si il y avait des bombardements, qu'elle me montre un peu ce qu'elle voyait par sa fenêtre. Alors, c'était pas systématique, mais c'était assez... ritualisé, si je puis dire. Puis après, on parlait aussi des événements majeurs qui avaient eu lieu entre nos deux conversations. Il y a un côté épistolaire, hein, dans le film, de toute manière, il y a ça. Ce qui m'a guidée, je pense, c'est l'émotion pour le montage. Il y a eu une version, ou plusieurs versions, en tout cas, avant d'arriver à celle-ci, où j'avais beaucoup nettoyé. Donc j'étais très informative, j'estimais que c'était important de donner des informations très précises. Et en fait... C'est une version, c'est évidemment un mauvais montage, parce que quand on ne laisse pas de souffle dans le film, ça devient ennuyeux. Donc, j'ai réalisé que non, ça ne fonctionnait pas. Il y avait aussi des versions de montage qui étaient un peu plus éclectiques et où j'avais intégré d'autres types d'images. Et là aussi, il a fallu un peu le courage, d'assumer que le film est essentiellement basé sur ces conversations et qu'il faut assumer ce choix. Et à partir du moment où j'avais décidé ça et que je m'y suis tenue et que je me suis laissée guider par l'émotion et par le souffle, donc à laisser aussi des vides, à laisser des connexions, à laisser la fragilité de l'image, le film a commencé à vraiment à souffler et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui.
Y compris par la confrontation entre un ici et un ailleurs, entre un endroit confortable où c'est la paix, où le gros souci c'est est-ce que le chat va réussir à rentrer dans la maison, et puis quelqu'un qui voit des bombes tomber et entend en permanence des drones et des bruits de bombardement autour d'elle. Ça pourrait sembler obscène dit comme ça, or il me semble que c'est précisément dans ce raccord entre deux images que se tient la vie.
Oui, puisque c'est le contraste. Si je cache mon confort et ma vie en zone de paix, ce qu'elle vit là-bas ne retentit pas de la même manière face à un écran vide, et encore plus si je montre frontalement. Or, c'est le choix que je n'ai pas fait. J'ai laissé la guerre dans le hors-champ, et dans le champ sonore, on va dire, et dans le hors-champ de l'image. Et ça, c'était un choix délibéré aussi, de ne pas intégrer, quasiment pas, sauf quelques photos vers la fin du film, d'images... comme on a l'habitude de dire aujourd'hui, graphique, en tout cas des images qui montrent, et même encore ça, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas grand-chose. Donc c'est pas du tout une manière d'effacer, c'est pour laisser en fait le champ de l'imaginaire plus libre d'imaginer ce qui manque à l'image, à mon image, à moi, et qu'on entend, et donc interpeller. C'est dans ce contraste que la guerre et l'horreur se définissent, par ce contraste.
Et ce contraste, il tient... pas dans du champ contre champ, il tient dans deux images qui sont dans le même plan, c'est-à-dire l'image de Fatema Sona, filmée sur le téléphone, en verticale, et je pense que c'est un choix aussi qui vous a demandé une certaine réflexion, et votre reflet dans l'écran de ce téléphone portable que vous filmez. Pourquoi est-ce que vous avez voulu filmer ça comme ça? Ça aurait pu être elle plein cadre et vous en face réagissant à ce qu'elle dit.
Parce que c'est précisément ça, ce film est fait sur... nos deux êtres côte à côte, ou face à face, pas côte à côte puisqu'on n'y était pas, mais on l'était presque symboliquement, ou face à face, donc dans la même image. C'est pas un split screen, c'est pas du tout ça, justement. Au tout début, si, ça l'est, et c'est là où on voit le changement de cadre que je décide de faire intuitivement, puisque là c'était pas réfléchi. Je sens que je mets en vertical et ensuite je zoome sur son image. Et après, je gère mon icône. Parfois, je le veux, parfois, je ne la veux pas. Je la fais disparaître ou je la change de place, ma vignette, je veux dire. Et c'était une manière de me laisser à la fois dans le hors-champ d'elle et en même temps, en restant présente d'une certaine manière, par l'empreinte, par un reflet, par un bout de vignette qu'on voyait mais qui était toute petite par rapport à la taille de son image. Et curieusement, c'est ce dernier appel pour dire quand même à quel point, alors que je ne savais pas que c'était le dernier, mais j'ai décidé de le filmer différemment. En fait, je n'ai même pas décidé, je m'en suis rendu compte après coup. Je me suis dit, mais pourquoi tu l'as filmé dans l'autre sens? C'est incroyable. C'est que le film était déjà fini, et ça, c'était un post-face. Et du coup, ça faisait sens que le cadre soit différent. Il y a eu beaucoup de choses, je pense, dans ce film qui se sont... forcément, ce sont des décisions, puisque je ne les ai pas changées après. Mais de façon intuitive, en fait. C'est venu sur le moment, mais je crois que les décisions s'imposaient d'une bonne façon. C'est-à-dire que... Après, j'ai compris pourquoi j'avais agi de cette sorte.
Every day, I told my mom, I want a chicken.
Ah.
I hope, or I wish if we had just chicken, because we didn't eat it for 9 months.
We met the first time, I think 2 months ago, and it was already 7 months of the war. And you told me you had chicken once. I think I've
yeah.
watching the...
Now, my biggest dream, to have one chicken and one chocolate. Yes, I told my friend in the South, just send me one chocolate. I miss everything. I miss my life. Miss the food that was my mom cooked. The chocolate and Nescafé and coffee, everything.
Le grand sujet au sens pictural du film, c'est le visage de Fatem Hassona, c'est son sourire. On a le sentiment que vous ne vous lassez pas de filmer ce visage, comme nous, spectateurs, nous ne lassons pas de saboter, mais aussi de ce côté, c'est presque un écran sur lequel s'imprime tout ce qui se passe à l'extérieur.
Oui, son visage est un territoire. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a demandé, mais après une projection, m'a dit pourquoi, pour un film qui est à la fois si tendre, mais qui est quand même si dur et qui parle d'un génocide, vous avez choisi, pour l'affiche, d'utiliser l'image d'un visage souriant et si beau de Fatem, comme ça, et pas une image frontale. J'ai dit, mais c'est son visage. C'est le territoire palestinien, pour moi, aujourd'hui, il est représenté... Enfin, c'est un ressenti, évidemment, c'est pas du tout... Mais... On lit sur son visage des teintes et énormément de choses qui, si j'avais montré des bâtiments en ruine ou plein d'autres choses, on n'aurait pas déchiffré de la même manière par les changements qui s'opèrent sur son visage, sur sa peau, par l'amaigrissement qui survient à cause de la nourriture, par plein d'autres choses, ne serait-ce que le reflet de la lumière dans ses yeux, la couleur changeante de ses yeux... que j'évoque aussi à un moment, tout ça fait qu'on lit à notre insu, en fait, il y a comme un histogramme de ce qui est en train de se passer en dehors de chez elle, dans son pays.
Ce que vous avez filmé, c'est presque littéralement son âme. Le titre s'appelle « Put your soul on your hand and walk », mais ton âme sur ta main et marche, mais son âme est aussi sur ton visage. Enfin, c'est le projet de tout cinéaste aussi.
Bah, c'est ça, oui. C'est en fait, moi, je me suis limitée au strict minimum, je dirais, pour ce film. Et ce minimum est devenu maximum. C'est un des films que j'ai fait avec le moins de moyens matériels. Et financement, et techniquement, et contraintes temporelles, physiques, tout, enfin, tout était limité. Et paradoxalement, ça m'a donné la plus grande des libertés.
Fatem Hassona était une femme d'image, elle était photographe. À quel point avez-vous le sentiment qu'elle était consciente de l'image qu'elle vous donnait, de la mise en scène de soi qu'elle pouvait faire, ou en tout cas de ce qu'elle voulait bien vous donner comme image d'elle-même?
Alors... il y avait quand même de la coquetterie chez elle. On le sent par moments dans les plans. Notamment, il y a une conversation dans laquelle elle n'arrête pas de toucher son foulard. Et puis, à un point que moi, ça me déconcentre, on se déconcerte. Et je lui dis, est-ce que tu veux qu'on arrête pour que tu remettes ton foulard? Elle me dit, non, ça va. Et je dis, pourquoi tu le touches alors? Et après, elle me dit, je ne sais pas, ce n'est pas bien mis. Et je dis, si, ça va. Donc, il y avait quand même cette part de coquetterie. Je pense qu'elle se préparait, mais bon... c'était dans les limites de ce qu'elle subissait, c'est-à-dire qu'il y avait des jours où elle était vraiment tellement pas en forme que après elle reprenait du poil de la bête, et parce qu'il y avait une joie dans nos retrouvailles et je la faisais, j'essayais de l'égayer, mais parfois ça ne marchait pas. Enfin, on le voit aussi dans le film. Mais après, il y a quelque chose d'autre aussi que je me suis dit a posteriori, à savoir qu'elle voulait peut-être pas voir non plus, parce qu'elle m'a jamais demandé à voir le film en entier. Bon, l'idée c'était qu'elle le voie avec moi, bien sûr, quand elle allait venir, mais elle aurait pu me demander, bah, envoie-le-moi avant, je veux le voir. Et l'année dernière, déjà, très tôt, puisque j'ai commencé à monter au mois de mai déjà, dernier, quasiment une semaine, 10 jours après le début du tournage, j'ai commencé aussi à monter en parallèle. Et un bout que j'avais assez vite monté, je lui ai envoyé ça assez rapidement, elle l'a jamais regardé. Elle avait le lien, je lui ai posé la question 3-4 fois, je lui ai dit « alors tu l'as vu ?» Et elle me disait « non, pas encore, l'Internet n'était pas stable et tout. » Je pense qu'elle aurait tout à fait pu le regarder. En fait, elle n'a pas voulu. Je me suis dit par la suite qu'elle se préservait peut-être de ne pas voir sa propre image. Je l'ai aussi interprété comme un signe de confiance pour pas qu'elle soit, elle, distraite en me disant « oui, je voudrais être comme ci ou comme ça », ne pas voir. Donc, il y avait évidemment ce qu'elle percevait sur le moment, quand on était en train de parler et que je la filmais. Et au-delà, après, elle oubliait.
Elle vous a donné une chanson, Sepideh Farsi, elle s'appelle Maragé, je crois que ça veut dire la balançoire en arabe. Qu'est-ce que c'est que cette chanson?
Oui, Maragé, balançoire au pluriel, et ça, c'est une chanson qui a été composée par une chanteuse d'origine palestinienne ou libanaise d'origine palestinienne, après l'explosion du port de Beyrouth, qui parle des enfants et de leur innocence et de la maison qui n'est plus, mais parle de Beyrouth. Et quand je lui ai demandé de... Si elle avait, si elle pouvait, parce qu'elle m'a dit, je chante, tu sais, je chante aussi. elle dévoilait ses talents peu à peu. Donc elle m'a d'abord envoyé une chanson qui avait une orchestration avec du synthé, enfin qui était assez complexe. J'étais étonnée. J'avais voulu utiliser cette chanson-là et je la trouvais un peu trop sophistiquée ou trop trafiquée, disons, dans l'orchestration, dans les arrangements qu'elle avait fait. Du coup, je lui ai demandé de m'en envoyer une autre et puis elle m'en envoie une en anglais. Et là, je lui redemande, je dis, est-ce que t'as autre chose? Je préférais que ce soit en langue arabe. Et là, elle m'a envoyé Maragé, et là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, la chanson n'est pas d'elle, mais elle a fait elle l'a chantée, quoi, pour moi.
Merci beaucoup, Sepideh Farsi. Le chat nous dit qu'il faut qu'on s'arrête. Merci.
للأطفال عم بحلم بالمراجيح سمعوني بغني قالوا صوت الريح سمعوني بغني قالوا صوت
Put your soul on your hand and walk de Sepideh Farsi est sorti en salle lui aussi ce mercredi. Les très belles photographies de Fatema Sona transmises à la cinéaste avant son assassinat ont été rassemblées avec aussi ses poèmes dans un livre, Les yeux de Gaza, c'est aux éditions textuelles et les bénéfices de la vente de l'ouvrage seront reversés à Reporters sans frontières. Vous écoutez France Culture, Plan Large et cette semaine dans vos salles, il y a aussi ça.
Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.
La révolution ne sera peut-être pas télévisée, comme le scandait Jill Scott Heron, mais les révolutionnaires, ça fait de sacrés sujets de cinéma, surtout quand ils échouent, mais qu'ils essayent encore. Cette chanson, on l'entend dans le générique de fin de Une bataille après l'autre, le nouveau film est sans doute un de ses plus grands, si ce n'est le chef-d'œuvre de l'Américain Paul Thomas Anderson. Il a beau avoir été tourné il y a un an sous Biden, c'est le film qui entre le plus en résonance avec l'Amérique fracturée de Donald Trump. Les temps étant ce qu'ils sont. Paul Thomas Anderson oblitère dans sa promotion sa dimension politique. Il faut dire que prendre comme héros, anti-héros certes, des militants révolutionnaires d'extrême gauche, adeptes de la lutte armée, en particulier contre les centres de rétention de migrants, eh bien ça expose aujourd'hui à quelques répressions. Donc il oblitère tout ça pour mettre en avant sa dimension épique, comique et intergénérationnelle entre un père et sa fille. Le film est tout ça, mais plus encore, réussissant ce que Ari Aster avait échoué à faire dans Eddington. C'est incroyablement mis en scène, c'est d'un souffle et d'une énergie qui font passer ces 2h50 en un clignement de paupières. Ne le ratez pas. Ne ratez pas non plus Disco Africa, le premier long métrage du jeune Malagasy Luc Razanadjaona. Il y suit, dans la lignée du cinéma des Frères Dardenne, un parcours moral, celui d'un jeune mineur clandestin qui fouille la boue à la recherche de Saphir et doit convoyer dans leur bourgade natale le corps de son meilleur ami abattu par l'armée. Ce faisant, le jeune cinéaste fait réémerger toute une histoire des luttes à Madagascar en lien avec le grand mouvement panafricain des années 70, transmise par la musique. Luc Razanadjaona.
Salam Adolia. Fodotika dia apotusha chereo. Sami na fafana.
Sami na fafana.
Achika mina mjana.
Achika mina mjana.
One for
all. One for all.
One that does.
One that does.
One yes man.
One yes man.
Tout d'abord, je suis un très grand fan de musique, pas seulement africaine, mais vraiment des musiques très révolutionnaires et revendicatives. Il se trouve que donc à cette époque-là en Afrique, c'était par la musique que on diffusait les messages politiques ou de revendication. Et Madagascar a été contaminé par ça. Par exemple, on peut voir les textes du groupe Maïlio pendant la lutte estudiantine des années 60. Où c'est les étudiants qui se révoltaient, c'est par la chanson qui sont devenus jusqu'à maintenant des chansons hymnes qui a fait que les jeunes ont été galvanisés. Précisément, la catégorie musicale, c'était le funk et l'afrobeat, tant qu'en Afrique, mais aussi en Madagascar. Et il se trouve que quand on regardait les archives d'avant de la télé nationale malgache, c'est exactement comme les clips studio que faisait Fela Kuti ou l'orchestre Paopab à cette époque-là. Donc là, on peut dire que la musique a inscrit Madagascar dans le continent.
Et ça, vous le poursuivez dans la bande-son de votre film, parce que quand on regarde, il y a des musiques de Madagascar, mais il y a aussi des musiques de l'Afrique tout entière. C'est une bande-son totalement panafricaine aussi que vous avez choisie.
Exactement, c'est une prise de position, parce que je trouve que, en termes de narration et de structure, la musique devait être aussi un des personnages qui faisait qu'on poursuivait un certain idéal. Et pourquoi mais c'est quelque chose de nouveau aussi pour lui, parce que à un moment ou un autre, un jeune, qu'est-ce qui le motive à se réveiller le matin? C'est juste survivre. Et tant que ton Disco Africa, quand il y a cet environnement sonore, cette découverte, ça lui donnait envie de continuer sur sa quête personnel, familial, mais ça lui donnait aussi envie de voir qu'est-ce qui était au-delà de l'histoire du pays. Et même s'il n'a pas tout compris de tout ce qui se passe, il s'est réveillé politiquement. Et c'était ça l'idée du film. Ouais.
Africa de Luc Razanadjaona, c'est en salle depuis ce mercredi, et si vous vous posiez la question, c'est le Odjatana Show Band qui jouait la musique qui donne son titre au film et qu'on entend en ce moment. Si vous êtes amateur de films de sabre déviant, une rétrospective La Lame à l'œil de Kenji Misumi vous permet depuis mercredi encore de découvrir en salle 4 films restaurés du réalisateur de Zatoichi, le masseur aveugle. Si vous n'avez jamais vu le Toy Story originel de John Lasseter. Il revient lui aussi cette semaine sur grand écran. Et puis, si vous rêvez de voir un autre grand habitué de plan large, le cinéaste Bertrand Mandicot, présenté en 35 mm sa déviante comédie, un des surgeons de sa Conan, jusqu'ici seulement édité en vidéo, ce sera ce lundi à 20h au Théâtre de l'Odéon à Paris. Et ce sera suivi d'un DJ set de Pierre Desprats, le fidèle compositeur du cinéaste. Ceci annoncé, allons un peu voir ce qu'il y a sur les petites lucarnes.
Congratulations, Mr. Winter.
Thank you. The gates, Daniel?
Gut. Nimmst du dein Bild gleich mit?
No. Send it to New York. I won't be back till after Christmas. I'm going to the wilderness in Canada. No telephones, no anything.
Ist uns runtergefallen.
Schon wieder. Ciao.
Ciao.
Mr. Winter, are you satisfied?
As always. Although Jonathan doesn't like the blue.
May I introduce Mr. Replay, Mr. Winter?
Pardon?
Herr Zimmermann.
Yeah, yeah. I've heard of you. Let's go. Monsieur Plink.
Sie dürfen das nicht ernst nehmen. Der Zimmermann, der steht unter Druck. Er ist ein guter Bilderrahmer, aber kein kompetenter Restaurateur mehr.
Wieso?
Er ist krank.
Ce sont les voix de Bruno Ganz et Dennis Hopper notamment qu'on vient d'entendre dans ce film. Il y a aussi d'autres cinéastes comme Samuel Fuller et Nicolas Ray, autant d'amis américains d'un alors jeune cinéaste allemand qui voulait se confronter au cinéma policier lyrique des années 50. On est en 1977, c'est L'ami américain de Wim Wenders, un film qu'on peut voir en ce moment sur arte.tv dans un cycle intitulé Wim Wenders, cet inlassable filmeur et voyageur. On y trouve aussi Les ailes du désir et Buena Vista Social Club, mais c'est bien le premier, L'ami américain, donc, qui vous intéresse surtout, Sophie-Catherine Gallet.
Oui, alors, L'ami américain, c'est avant tout, en fait, un film de personnages, et c'est là le cœur même de l'intrigue. Donc, en premier lieu, on a Dervat, un peintre déclaré mort, mais qui continue bien à produire des toiles pour le marché de l'art. Ensuite, on a Tom Ripley, oui, le Tom Ripley arnaqueur, séducteur et faussaire, maintes fois mis en scène au cinéma, qui ici, interprété par un Dennis Hopper au regard toujours un peu triste et inquiétant, semble plus âgé que dans les interprétations du même personnage par Alain Delon ou Matt Damon, et lui donne une épaisseur nouvelle, troquant son arrivisme pour une solitude volontaire tout en étant lié au trafic de tableaux et à toutes sortes de malfrats. Zimmermann ensuite, un encadreur de tableaux et restaurateur atteint d'une maladie joué par Bruno Ganz. Et enfin le truand Minot qui va commanditer un meurtre à Zimmermann, orienté en cela par Tom Ripley. Raconter l'intrigue de L'ami américain plus avant que ce que je viens de vous dire n'est pas vraiment chose aisée, mais c'est sans doute à dessein car il s'agit donc plutôt d'un récit de personnage que d'un récit d'intrigue. Je veux pas dire par là non plus qu'on serait face au système d'écriture manichéen qui met en concurrence une écriture centrée sur l'évolution d'un personnage et une écriture centrée sur l'évolution d'une narration. Mais ce que je veux dire pour ce film, c'est que l'intrigue qui pourrait sembler première, c'est après tout un film policier avec des gangsters, des meurtres et des contrats non respectés, n'est en fait qu'un prétexte pour raconter finalement des personnages par des bouts de leur vie, même s'ils restent aussi, paradoxalement, d'un bout à l'autre du film, assez mystérieux. Et ce mystère dont ils ne se départiront pas, le refus aussi d'expliciter toutes leurs motivations, c'est ce qui permet en fait justement de les rendre encore plus vivants, encore plus proches, et c'est ce qui constitue le cœur battant du film en proposant des tranches de vie, donc matinées de complots et de thrillers sourds. L'image et la mise en scène s'accordent pour construire ce ressenti. Dans ce film, il semble faire constamment froid. Mais un froid de matinée ensoleillée d'hiver, des jours nimbés d'une lumière douce et ciselée qui permet d'entourer les personnages d'une certaine tendresse. Une tendresse qui accompagne aussi les villes parcourues, du port de Hambourg aux zones désaffectées jusqu'au métro de Paris qui deviennent des personnages. Cette grande douceur de l'image et de la lumière froide se décline parfois soudain dans une tonalité un peu plus chaude et contribue alors à construire une image étonnamment charnelle et vivante. L'intrigue est donc parfois subtilement reléguée au second plan pour s'attarder sur la correspondance entre l'image et les caractères de ces personnages comme englués finalement dans une nostalgie du présent. Et cette correspondance permet de mettre en place ce lent engrenage vers le crime tout en construisant chez le spectateur une réelle empathie pour Zimmermann et Ripley, tout étrange et solitaire qu'il soit. Donc de ces lumières, on en retiendra aussi une autre, en particulier dans quelques scènes, la lumière froide et abrupte de néon qui évoque par anticipation Paris, Texas, manière de construire au long cours dans une filmographie, par la lumière, le lien entre des personnages esselés qui n'arrivent pas à se rencontrer, jusqu'à cependant la possible naissance d'une amitié dans l'ami américain qui transforme l'atmosphère du film. Silence plus étiré et une attention au son vient soudain caractériser le film ici dans une scène de tension, à moins que ce silence et cette attention au son ne se remarquent davantage parce que la narration influe sur l'écoute du spectateur au moment où se révèle donc le sous-texte du film, l'enjeu d'amitié entre Zimmerman et Ripley. Une amitié qui s'illustre lorsque Ripley vient prêter main forte de manière inattendue à Zimmerman lors d'un second meurtre dans un train. Une séquence par ailleurs, outre ce nœud narratif extrêmement belle, construite dans l'esprit classique d'une action de film policier, mais conjuguée à cette lumière dont je vous parlais, ces lumières caressantes qui font naître une ivresse de vie et de désespoir chez Zimmerman quand il hurle soudain, visage au vent, dans la locomotive du train lancée à toute allure. À partir donc de cette révolution, révélation et non pas révolution.
Intéressant.
Intéressant lapsus, en effet. La possibilité donc d'une amitié entre eux, cependant qui est d'ailleurs aussitôt rabrouée par Ripley, les sons qui nimblent les scènes semblent se faire plus subtils, créant une intimité, une bulle en fait, dans laquelle pourrait naître justement cette rencontre entre les solitudes. Et cette tentative de percer le secret de la solitude des êtres et de construire des ponts entre eux, c'est quelque chose qui se retrouve finalement dans nombre des films de Wenders, dans Paris, Texas évidemment, que j'ai déjà évoqué, mais aussi dans Les ailes du désir, dans ce film qui relate l'histoire de deux anges parcourant le Berlin de 1987 et capables d'entendre toutes les pensées des humains, les aidant aussi autant qu'ils peuvent. C'est à nouveau le gouffre creusé par la solitude qui est mis en scène, mais de manière cependant, à mon sens, un peu moins inspiré cette fois-ci, car une fois l'enjeu scénaristique du film établi, le cinéaste ne parvient étrangement pas à construire cette charnalité de l'image, désir de charnalité qui démange pourtant l'un des anges, qui rêve de devenir humain pour comprendre le contact et l'émotion. C'est un film qui, pour moi, est un peu frustrant, donc, mais qui reste cependant un témoin vraiment formidable du Berlin encore séparé par le mur, et aussi une déambulation lancinante dans une ville toujours admirablement filmée, avec... une douce mélancolie à laquelle on n'est pas tout à fait indifférent. Oh, you dream of pretty things that come from Paris, while you're sweating in the saddle and you're searching out for cattle that are straying. What a way to be every day, to be outing out, to be man. But oh boy, it is what a joy it is being women again. Like the bees conceal their honey deep in a hive that nobody sees. Every night we strip all the timber of us and we are as busy as bees. All the things to do and fences to be mended. And at times it feels inhuman when you're only prairie women tending farms. But at sundown, when the lonely day is ended, you can come in from the cold and have your loving man to hold you in his arms. Yes, at sundown, when the lonely day is ended, you can come in from the cold and have your loving man to hold you in his arms.
Merci Sophie-Catherine Gallet, L'Ami Américain, mais aussi donc Les Ailes du Désir et Buena Vista Social Club, c'est à voir en ce moment. Et pour 4 jours encore, ne tardez donc pas sur arte.tv et c'est gratuit. Et puis c'est évidemment pas chez Wim Wenders, mais chez Christian Jacques et Guy Cazaril. C'était dans Les Pétroleuses en 1971 qu'on pouvait entendre s'essayer à la chanson country la très regrettée Claudia Cardinal, décédée mardi dernier à l'âge de 87 ans. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son d'Ali Yaha, l'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.